Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, aujourd'hui on parle d'un sujet qui évidemment est douloureux, la découverte du handicap de son enfant à la naissance, le jour de la naissance ou les jours qui suivent l'accouchement. Sujet difficile donc, vous allez entendre le témoignage très fort de Pauline qui est la maman d'Éléonore atteinte de trisomie 21. Et puis nous serons avec une psychologue qu'on aime beaucoup dans cette émission, Pauline Mainjolet, qui nous aidera à nous dire ce qui se joue dans ces situations douloureuses. Je l'ai dit, c'est parti, on écoute Pauline avec Yasmine Ouglis.
Malgré le suivi médical très encadré des grossesses en France, il arrive encore que certains handicaps ne soient pas décelés avant la naissance. Une découverte à l'accouchement qui bouleverse la vie familiale imaginée par les futurs parents. Bonjour Pauline.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes la maman d'Éléonore, 10 ans, porteuse de trisomie 21, de Basile, 8 ans, et de Georges, 9 mois. Merci d'être avec nous ce matin pour revenir sur votre histoire. Alors, vous aviez 22 ans quand vous avez accouché de votre fille-née après une grossesse et un accouchement finalement sans histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont passés les premiers instants avec Éléonore ?
Alors, les premiers instants, on la pose sur moi. Moi, à ce moment-là, ça, je trouve ça merveilleux. Je pense que je lui dis un truc comme « coucou bébé ». Et je ne me rends pas compte que ce n'est pas normal qu'elle ne crie pas et qu'elle soit quand même assez bleutée. Et donc, d'un coup, passé ce moment-là, je me rends compte que la salle se vide. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans cette salle d'accouchement, parce que comme c'était un accouchement dit très ordinaire, il y avait plein d'internes, plein de monde.
Ils venaient
et d'un coup, oui, ils étaient là pour apprendre, ils étaient une dizaine. Et d'un coup, ça passe de 15 personnes à zéro, ou une personne, une sage-femme qui reste avec moi. Et en fait, ils emmènent Éléonore dehors. À ce moment-là, je suis un peu dans le shoot d'adrénaline après la délivrance et je ne me rends pas tout de suite compte qu'il y a quelque chose d'anormal.
Alors justement, comment vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose et que votre fille est différente ?
Parce que mon mari revient une dizaine de minutes après, peut-être quinzaine de minutes après, et à sa tête, je vois qu'il y a un problème. Il a une tête défaite, alors que ce n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel il était quand il part avec elle.
Ouais.
Et là, donc, je comprends qu'il y a un problème, je lui demande, et la première chose qu'il me dit, c'est qu'il y a un soupçon de trisomie 21. Et il s'arrête là, et en fait, on est tellement choqués tous les deux. On est encore donc, tout seul avec la sage-femme qui s'occupe de la suite. Mais voilà.
Donc à ce moment-là, c'est cette découverte-là. Et tout de suite, Éléonore, en fait, elle est emmenée à l'hôpital Trousseau en service de réanimation. Est-ce que vous vous rappelez de votre première visite là-bas ?
Oui, oui. Alors, donc effectivement, elle part quelques instants après. On la ramène 2 secondes en couveuse avant que le Samu l'emmène, mais elle part en quelques minutes. Quoi.
Ouais.
Et ça prend 24 heures qu'on retourne la voir. Donc, on nous emmène en ambulance, que j'ai accouché 24 heures avant. On arrive à Trousseau dans ce service de réa qui est toujours très impressionnant,
oui,
avec les masques, les charlottes, tout ça. Et on arrive. Elle a été désintubée entre-temps. Elle vient de l'être, mais elle est encore avec plein de fils. Et ça fait même pas un quart d'heure qu'on est dans la salle, qu'on commence avec moi à la sortir de la couveuse pour la prendre dans les bras, etc. Et il y a une interne qui vient nous voir et qui nous dit « Oui, écoutez, mais très rapidement, entre deux portes, elle nous dit « Vous pouvez la laisser si vous voulez, elle sera pupille de l'État. » Et nous, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait, il faut imaginer, hein, on n'a pas vu notre bébé du tout, on est vraiment dans cette découverte. Et puis on s'est inquiété aussi, parce que l'arrière, c'est... Et là, ouais, moi, j'étais très, très en colère. Je suis très en colère, je ne comprends pas. Contre à peu près tout le monde, sauf elle, sauf Éléonore, mais contre ce médecin, là, déjà, pour le manque de tact avec lequel elle fait ça. Et je suis tellement en colère que je n'attends pas l'ambulance pour rentrer et je fais le trajet de retour à la maternité à Saint-Antoine à pied. Ce n'est pas du tout conseillé, ce n'était pas une bonne idée, mais j'avais tellement besoin d'exorciser.
Ouais.
Tellement en colère. Mm. Et ça reste longtemps, ce sentiment de colère, parce que sentiment d'injustice. Quoi. Pourquoi
sûr.
Ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et on en veut un peu à tout le monde. Quoi.
C'est très nouveau. Donc,
ah oui, mais c'est sûr que c'est un choc énorme. Je pense que c'est quasiment un trauma, oui.
Alors, Éléonore, elle revient à l'hôpital Saint-Antoine, du coup, elle va suivre une batterie d'examens. Vous allez rester là-bas toutes les deux pendant 10 jours. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pu parler du handicap de votre fille à quelqu'un ?
Alors, on parle beaucoup avec mon mari dès le début. En fait, dès le début, on a l'impression... En tout cas, moi, on en a reparlé un peu là. On a eu le sentiment que, en fait, personne d'autre pouvait comprendre à part nous. Qu'on était les deux seuls à avoir vécu ce choc. Et que finalement, c'est nous que ça engageait pour notre vie. Et donc, ça veut dire deux choses. Alors, on en parle avec nos familles, nos proches, on en reparlera tout à l'heure, mais par exemple, il y avait la psy du service qui voulait clairement me voir et elle avait raison. Mm-hmm. Moi, je la fuyais parce que je trouvais ça Je me disais, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle n'est pas légitime à m'en parler. Elle ne l'a jamais vécu. Elle ne sait pas ce que c'est de vivre à la fois le plus beau jour de ta vie et à la fois le pire en même temps. Quoi.
Oui, à ce moment-là. Alors bon, on sait que voilà, bébé est là. Il faut rentrer à la maison. Comment il se passe ce retour à la maison avec Éléonore?
Éléonore, elle naît le 29 juin, donc début de l'été. On est encore rentré, ça doit être le 10 juillet, un truc comme ça. Et donc, en fait, quand on rentre, c'est très brumeux. Tout l'été, en fait, on part tout de suite en vacances. On ne s'inscrit pas dans le quotidien, on part. Et honnêtement, quand on essayait de se souvenir de ce qu'on a fait cet été-là, c'est hyper brumeux. En fait, on est un peu dans un espèce de tunnel, je pense qu'on processe des choses.
Ouais.
Et la vie quotidienne, elle reprend plutôt à la rentrée, en septembre. Là, voilà, on a une vie quotidienne qui reprend le boulot pour mon mari. Moi, j'étais étudiante. La garde d'Éléonore, voilà, les choses se mettent plus en place en septembre.
À ce moment-là, oui, en septembre. Ouais. Donc là, vous reprenez votre vie, vous la démarrez finalement avec ce bébé. Avec le recul, est-ce que vous pouvez nous dire quel impact l'handicap de votre fille a eu sur votre relation avec ce bébé?
Alors, là, je parle pour moi parce qu'on a, même si on a toujours vécu vraiment de manière très forte ensemble avec mon mari, en communiquant beaucoup, on ne partait pas du même point vis-à-vis du handicap, on n'avait pas le même rapport. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai eu au début vraiment une espèce de dissociation complète entre l'enfant que j'avais imaginé quand j'étais enceinte, l'enfant un peu idéal, et cet enfant handicapé. Ce n'est même pas mon enfant handicapé. Si on m'a dit, vous avez un enfant handicapé, mais je ne suis pas bien sûre que ce soit le mien. Pour moi, le mien, c'était celui qui était...
Okay.
Donc vraiment, j'ai une dissociation entre les deux. Et quand je vois Éléonore, je suis vraiment aveuglée par le handicap. Je ne vois que son handicap. Et je n'arrive pas à percevoir que c'est ma fille, quoi. Donc elle est mignonne, hein, je m'en occupe, le quotidien, ça aide à ancrer. Mais il y a vraiment cette espèce de distance qui reste entre nous. Je pense plus ou moins pendant un an. Pendant un an, petit à petit, je progresse dans ma réflexion.
Cheminer.
Pendant un an, voilà, je chemine, je pense.
Oui, c'est ça. Et on imagine aussi que ça a eu un impact sur la vie de famille que vous étiez imaginée peut-être pendant des années avant.
Oui, oui, alors complètement. Complètement, la vie de famille. Mais en fait, si je suis honnête au début, la personne pour qui j'ai le plus de peine, c'est moi. Je me disais, moi, j'avais prévu plein de trucs dans ma vie, ça ne va pas du tout se faire.
Ça chamboule.
Oui, ça chamboule. Ben, oui, j'ai toujours eu envie de bosser, j'avais des idées précises sur ce que je voulais faire. Je voulais avoir 3 enfants, mon mari en voulait 5. Je me disais, d'un coup, ça chamboule parce qu'on se dit, on n'arrive plus à se projeter dans le modèle de vie familiale qu'on avait, quoi.
C'est l'inconnu.
Donc, vraiment, cette notion d'inconnu et puis de cette injonction à devoir s'adapter, quoi.
Absolument. Alors, comment vous avez accepté cette différence?
Petit à petit, j'arrête de ne voir Éléonore que par le biais du handicap et je commence à voir en elle apparaître, émerger à mesure qu'elle grandit un peu, des expressions, des traits de caractère qui viennent de nous, de mon mari ou de moi. Et là, je me dis, en fait, c'est mon enfant. Effectivement, elle est comme ça parce que nous, on est comme ça. Et donc là, je commence à avoir moins le handicap et à voir plus Éléonore. Et au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, c'est pas elle qui n'est pas mon enfant ou quoi que ça. C'est moi, pendant ma grossesse, j'ai imaginé quelque chose. En fait, juste, ça a toujours été elle, mais je ne savais pas qu'elle était handicapée. Elle a toujours été comme ça. Et en fait, on va vivre avec ça. Et je pense que ce déclic qui se fait au moment de ces 1 an, où je réalise qu'en fait, c'est normal d'avoir vécu tout ce cheminement, parce que oui, j'ai vraiment vécu. C'est l'anniversaire de mon presque pire trauma, et à la fois d'une chose hyper heureuse, qui est qu'elle grandit bien, qu'elle a 1 an. Et ce jour-là, je pense, ça cristallise dans mon esprit un peu un tournant.
Oui. Alors, on comprend bien qu'il a fallu s'adapter à cette différence au handicap d'Éléonore. Mais du coup, concrètement, dans la vie quotidienne, là aussi, vous avez dû vous adapter.
Ah bah complètement. En fait, je pense que pendant 1 an, le travail que je fais aussi, c'est d'adapter complètement mon échelle de valeurs, comment je vais trouver mon équilibre dans notre vie, comment on va trouver notre équilibre dans notre vie. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de plutôt assez exigeant, perfectionniste et tout. Je sens vite que ça ne va pas être auprès d'Éléonore. Et donc, je m'investis beaucoup dans le boulot. On se dit dès le début, moi, je veux travailler. C'est comme ça que je trouverai mon équilibre. Donc, sur le boulot, c'est une orgue, hein, d'avoir 1, puis 2, puis 3 enfants, de bosser à plein temps devant un enfant avec des besoins spécifiques. Donc ça, on met tout en œuvre là-dessus. Et puis aussi, ça nous force à renoncer à quand même pas mal de schémas en termes de comment nous, on avait été élevés, de performance, de normes, de comment ça doit se faire les choses. En fait, on a un peu sa rentrée libre de réinventer son modèle familial et puis de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous, l'essentiel. Ouais. Quoi.
Alors, vous avez décidé d'avoir 2 autres enfants après, donc Basile et Georges. Ça a été une évidence tout de suite d'en refaire des enfants?
Alors, donc, comme je disais, on avait déjà un plan d'avoir une famille quand même plutôt nombreuse. Moi, quelques mois après la naissance de Léonard, mon schéma familial était tellement chamboulé que je disais, non, j'aurais pas d'autres enfants. Enfin, je suis pas du tout capable de me projeter dans la maternité. C'est mon mari très vite qui me dit, non, moi, je pense qu'il faut qu'on en ait un autre enfant. Et donc, on a Basile 2 ans plus tard. Mais alors, moi, il y avait un autre sujet, c'était le trauma de l'accouchement en lui-même.
Oui, bien sûr.
Parce que toi, la grossesse, comme elle s'est bien passée, j'ai pas. Mais l'accouchement, et d'ailleurs, c'est par hasard, je pense, j'ai été déclenchée pour les deux garçons. Jusqu'au bout, je pense que ça me faisait peur. Et ouais, c'était plus l'accouchement qui me faisait peur. Et puis, pour Georges, c'est parce qu'on a attendu d'être sortis du tunnel des deux enfants rapprochés petits.
Oui.
Et voilà, et on vient de l'avoir. Mais oui.
Et entre eux, comment ça se passe, tous les trois, les enfants?
Alors, donc là, maintenant, il y a une connivence qui se crée à trois, mais initialement, il y a quand même un duo. Basile et Léonore, comme deux enfants qui ont deux ans d'écart.
Ouais.
Ils sont extrêmement proches, quasiment fusionnels. On me demande tout le temps comment se joue ce rôle d'aîné qui se développe moins vite en termes d'apprentissage scolaire, etc., que le second. Et en fait, ça reste un aîné. Hein. J'entends tout le temps, vas-y, le dirait Léonore, arrête de faire la chef, c'est pas toi qui commande. Exactement les reproches que font généralement un second un aîné. Et ils jouent énormément ensemble. Ils passent aussi du temps à se disputer, hein, comme tout frère et sœur. Il y a eu un petit passage un peu difficile. Quand au moment du CP, Basile, en termes d'apprentissage, a dépassé Léonore, c'était un peu dur. Mm-hmm. Mais en fait, sur d'autres choses, elle reste son aînée, quoi. Elle est plus grande, elle est plus forte, elle commande.
Oui, c'est ça. Alors, ils ont été dans la même école, je crois, et là, ils ne le sont plus, Léonore et Basile.
En maternelle, on les avait mis dans la même école. Ça a été super, plein d'avantages. Problème, c'est souvent que ce soit les autres enfants ou le personnel enseignant, on utilise un peu Basile comme médiateur, intermédiaire, en lui disant « Ah, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, Léonore, quand elle fait ça? Est-ce que tu peux dire à ta sœur de ne pas faire ça ?» Et ça le mettait dans une position qu'on ne jugeait pas adéquate pour lui. Donc, on a décidé en primaire de les mettre dans deux écoles séparées. Ils se retrouvent quand même le mercredi pour aller au centre de loisirs ensemble.
Bonjour Pauline.
Bonjour.
J'ai l'impression de dire ça toute la matinée, moi. Donc bonjour Pauline Mangelet, vous êtes docteur en psychologie, spécialiste en périnatalité. On l'a vu, Pauline a eu beaucoup de mal à se sentir mère auprès de sa fille. Comment faire en sorte que les parents créent un vrai lien avec leur bébé malgré le handicap?
Alors il y a un vrai lien, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'il y a autant de parentalité finalement qu'il y a d'enfants et de parents. Donc il y a un vrai lien qui se crée. En revanche, j'entends le sens de la question, c'est-à-dire comment passer finalement au-delà du handicap et faire en sorte d'accompagner cet enfant et de tisser un lien finalement en dehors aussi du handicap. Le handicap fait partie entière de la parentalité. Il va falloir grandir, il va falloir évoluer tous ensemble avec ce handicap. En revanche, moi, ce que je conseille souvent, c'est finalement d'investir cet enfant aussi. Alors le handicap en fait partie, donc on ne peut pas le mettre de côté, mais de l'entrevoir comme une petite personne et finalement d'investir sa personnalité aussi, au-delà même du handicap.
Il y a un petit deuil à faire aussi de la parentalité qu'on avait fantasmée.
Mmh. Exactement.
On peut le dire comme ça?
On peut le dire comme ça, c'est un vrai deuil, hein. C'est pas qu'un petit deuil, c'est un vrai deuil de l'enfant parfait, exactement.
On a reçu une question pour vous en vidéo de Marion, regardez.
Bonjour la maison des maternelles, voilà, je suis la maman de deux enfants dont l'aînée est porteuse de handicap, on a pris son handicap à la naissance et j'ai trouvé l'annonce assez violente, surtout sur la forme plus que sur le fond, et je voulais savoir si le personnel médical était formé pour ces annonces. Merci.
Alors malheureusement, dans les études généralistes, non, il n'y a pas de formation spécifique. Les pédiatres, les médecins, même les sages-femmes, il me semble, n'ont pas de formation spécifique à l'annonce du handicap. En revanche, dans les services de maternité, il y a des formations parfois. Souvent, il y a un accompagnement aussi par les psychologues qui peuvent sensibiliser le personnel. Mmh. Et là, il y a une formation qui est spécifique. Mais ça dépend vraiment des maternités et des services.
J'ai vu qu'une fac de médecine de Lyon commençait à donner des cours d'empathie aux futurs médecins. Il y a besoin de passer par là?
Je crois que oui, parce qu'en plus, ce sont des métiers où il y a besoin de se protéger, de mettre un peu de distance aussi.
Avec... Oui, on ne peut pas ramener tous les drames qu'on croise toute la journée à la maison.
Bien sûr, sinon on ne vit plus. Donc, il faut mettre une certaine distance, mais ça s'apprend aussi. C'est comment garder cette empathie, cette bienveillance, tout en arrivant à se protéger à titre personnel.
Bien sûr. Alors, Lauriane vous demande par quelle phase peuvent passer classiquement les parents lorsqu'ils découvrent le handicap de leur bébé à la naissance. Est-ce que c'est d'abord la sidération
Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est similaire aux phases de deuil. Donc, il peut y avoir une phase de choc.
Le choc.
De déni aussi, c'est-à-dire « non, mais vous inquiétez pas, vous avez mal vu, je pense que ça va passer ». Et de la colère. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas vu ça pendant la grossesse? Ça peut être aussi de la tristesse. Pourquoi nous? Comment on va faire? Enfin voilà, toutes ces phases-là, elles sont totalement normales. Elles peuvent être dans un sens, dans un autre, peu importe. Mmh. Mais la phase finale, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'acceptation. La phase finale, c'est l'acceptation, et ça, c'est la lumière au bout du tunnel.
Anna, vous avez déjà été confrontée à ces annonces de choc où bébé arrive dans les bras de sa maman ou de son papa et lui dit « il y a quelque chose là ».
Bien sûr.
Comment vous faites, vous ?
Et ben, c'est vrai qu'on n'a pas de formation à la faculté, on est formé sur le terrain. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur une sage-femme qui était remarquable et qui, parce qu'elle elle avait fait toute sa carrière alors qu'il n'y avait pas d'échographie. Et donc, pour elle, c'était du quotidien de faire naître des bébés qui avaient des malformations ou des choses très... Et donc, elle avait c'est elle qui m'a formée. Donc, elle sortait le bébé. Je me rappelle, il y avait un grain de beauté géant sur le dos. Donc, tout le monde, enfin, moi, j'étais liquéfiée. Et elle était là. Il est magnifique, cet enfant. Bon, évidemment, il y a quelques contrariétés. Il va falloir l'opérer, tout ça. Mais avec une spontanéité, un naturel, qui était extraordinaire pour les parents.
Donc, vous avez essayé de garder ça,
hein. Moi, j'ai été à très bonne école. Je remercie infiniment parce qu'elle j'ai été longtemps avec elle en garde. Et donc, de ne pas avoir peur, déjà, ça change complètement le rapport qu'ont après les parents avec leurs enfants.
Ninon nous dit « C'est souvent difficile d'annoncer le handicap aux grands-parents. Qu'est-ce qui se joue ?»
Alors, l'annonce, d'une manière générale, est compliquée parce que ça acte le handicap. Oui. Moi, je me rappelle d'une patiente qui me disait même « Mais qu'est-ce que je mets sur le faire-part ? Est-ce que je mets une photo ? Est-ce que je mets... On ne peut pas mettre « L'enfant est bien portant, tout va bien. » Donc, qu'est-ce que je mets ? Enfin, voilà. Et alors, l'annonce aux grands-parents est vraiment chargée émotionnellement parce que déjà, on embarque toute la famille aussi dans ce projet du handicap. Et puis, c'est une façon de dire inconsciemment, bien évidemment, je vous ai déçu. J'ai pas su faire mon travail, j'ai pas su finalement vous apporter le petit enfant parfait. Et ça rejoint le travail de deuil dont on parlait tout à l'heure.
Oui. Alors, il y a l'annonce aux grands-parents, mais il y a aussi l'annonce parfois aux frères et sœurs. Elliot vous dit, nous avons découvert à la naissance que notre fille n'avait pas d'avant-bras gauche. Comment annoncer à son frère de 4 ans que sa petite sœur est née handicapée ?
Alors ça, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est avec des mots simples, en toute transparence. Les parents, ils peuvent aussi faire preuve de créativité. Ça peut être prendre une poupée, lui expliquer véritablement qu'est-ce qui se passe, lui faire un petit schéma, un dessin. Et ce qui est surtout important, c'est de pouvoir répondre par la suite à toutes ces questions. Ne pas balayer, ne pas mettre de côté. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser, mais il ne faut pas non plus banaliser. C'est tout l'équilibre à trouver, ce n'est pas évident.
Ce n'est pas évident, surtout qu'eux-mêmes, en fait, le découvrent. Donc, il faut gérer leur propre choc, comme vous disiez. Et pour l'enfant, l'autre enfant, quoi.
Sauf qu'un enfant ne va pas avoir le même choc que ses parents. L'enfant, il y a la naïveté. Ce qu'il va voir en premier, c'est son petit frère ou sa petite sœur, au-delà du handicap.
Il ne va pas se projeter...
Non, lui, il ne va pas se projeter plus loin sur les infrastructures, sur tout ce qu'il va avoir à mettre en place. Non, lui, tout ce qu'il voit, c'est mon petit frère, c'est ma petite sœur. Je suis trop content qu'il soit là.
D'accord.
Une fraîcheur qui fait du bien, j'imagine, dans ces moments-là. Ouais. Alors, Victor, il a une très bonne idée. Il dit « Quand on devient parent d'un enfant à particularité, ne faudrait-il pas se ménager du temps pour digérer la nouvelle, en restant plus longtemps à la maternité ou en limitant les visites des proches ?» Il n'y a rien qui est prévu quand il y a une nouvelle comme ça, difficile ?
Si, souvent, c'est prévu. Ouais. Souvent, le séjour est un peu plus long. Il y a tout un accompagnement qui est proposé.
Et en termes d'arrêt de travail, tout simplement, on peut...
Alors, il peut y avoir aussi, c'est la sage-femme ou le pédiatre qui vont prendre le relais sur le retour à la maison. Et bien évidemment, de toute façon, la reprise du travail est souvent retardée quand il y a un handicap.
Maxence vous dit, je suis un papa très protecteur avec mon fils de 6 ans, né avec un handicap. J'ai tendance à devancer ses besoins et tout faire pour lui. Comment faire pour lâcher prise ?
Alors, c'est souvent le cas. Il y a souvent une hyper-vigilance, une hyper-protection qui se met en place et qui est normale. On voit, nous, quand on a nos enfants qui sont malades déjà, à quel point on a tendance à devancer leurs besoins. Donc là, c'est la même chose. Je crois que ça fait partie aussi du développement. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on accepte aussi que nos enfants grandissent et qu'ils vont avoir leur propre autonomie, leur propre indépendance. Là, c'est pareil. Et je crois que c'est aussi une façon de leur faire confiance, de se dire... il est, ou elle est capable de faire, je lui fais confiance. Et s'il a besoin, il viendra me demander, il n'y a aucun doute là-dessus.
Karine vous dit, la découverte du handicap est un choc, mais il y a aussi les autres étapes, l'amputation parfois, l'opération, un suivi qui est lourd. Les parents ont-ils droit à un suivi psychologique ?
Bien sûr. Alors, ils ont droit... ça ne leur est pas forcément proposé, hein, malheureusement, mais il faut qu'ils le demandent.
C'est quand même incroyable que ça ne leur soit pas proposé.
On va y venir, hein, c'est-à-dire que la psychologie, ça arrive.
Oui, ça vient quand même, puis ne serait-ce que... Il y a maintenant des séances remboursées pour tout le monde, alors c'est que 4, on est au tout début, c'est mal remboursé.
C'est pas sur le départ.
Non, mais je veux dire, il faut savoir si ça
Benjamin, mais...
On commence tout doucement.
Oui, bien sûr. En tout cas, il y a une volonté d'accessibilité au soutien psychologique. Donc, pour revenir à la question, pour les parents, qu'ils n'hésitent pas à demander, il y a aussi beaucoup d'associations qui sont spécialisées en fonction des types de handicap et qui ont tout un réseau de soutien notamment.
Ça, c'est très important.
Monique nous dit « On a découvert à la naissance que mon petit-fils est aveugle. Comment accompagner au mieux ses parents suite à ce choc ?» Tout à l'heure, on parlait de l'enfant qui va annoncer à ses parents le handicap. Là, c'est un peu l'inverse.
Bah, je crois que c'est être présent, faire ce qu'on peut à sa hauteur. C'est pas toujours évident de trouver la bonne place aussi. Les parents ont besoin d'être très présents auprès de l'enfant. Et donc, parfois, les grands-parents ne savent pas trop quelle distance prendre par rapport à ce petit enfant. Il y a aussi l'inconnu, c'est-à-dire comment s'occuper d'un petit enfant, pour le coup, porteur d'un handicap. Ouais. Donc, je crois qu'il faut tâtonner un peu comme on le fait tous, essayer de se dire aux parents « je suis là si vous avez besoin, n'hésitez pas ». Ça peut aussi leur offrir une soupape un petit peu le soir pour aller faire un restaurant, pour sortir un peu. Voilà, ça peut beaucoup les aider.
Clémence vous dit comment dépasser la culpabilité de la mère, se dire que ce n'est pas notre faute si notre enfant est porteur de handicap, et est-ce qu'on y parvient un jour ?
Alors cette question, elle est très compliquée. Je crois qu'elle est vraiment personne dépendante. La question de la culpabilité, elle est en filigrane vraiment chez toutes les mamans d'un enfant porteur d'un handicap. Pour le coup, le soutien psychologique et la thérapie peuvent vraiment faire en sorte de travailler dessus. Mais c'est une question qui est compliquée. La culpabilité, je souhaite à toutes les mamans, en tout cas, qui sont vraiment aussi... Je crois qu'il faut saluer aussi que ce sont encore plus des héroïnes du quotidien, les mamans d'enfants porteurs de handicap. Et je leur souhaite vraiment d'arriver, en tout cas, au mieux à gérer cette culpabilité.
En étant accompagnée, c'est quand même mieux.
Bien sûr.
Je me souviens d'un livre que j'avais lu d'une maman d'un enfant atteint de troubles autistiques. Et qui racontait son énorme culpabilité d'avoir eu des traversées de pensées d'infanticide. Et je me souviens qu'une experte nous disait « ça arrive malheureusement ». Et alors là, c'est la culpabilité absolue d'avoir cette pensée.
Alors, il y a aussi, ces pensées, elles peuvent aussi arriver quand on a un enfant qui est bien portant. C'est important de le dire. On peut avoir des pensées négatives envers son enfant, en postpartum, voire même après, même si l'enfant n'est pas porteur de handicap. Et donc, quand c'est le cas... Ces pensées, j'ai envie de dire, elles sont presque normales. Je crois qu'il faut vraiment déculpabiliser les parents. Elles sont normales, c'est-à-dire que la vie ne va plus être la même.
Oui.
La vie va avoir une lourdeur, il faut le dire,
en règle générale, en devenant parent.
Et encore plus avec un enfant porteur d'un handicap. C'est-à-dire que tout devient contrainte. Vous voulez aller faire, on parlait du restaurant, vous voulez aller faire un restaurant, allez trouver une babysitter qui accepte de garder un enfant handicapé. C'est pas simple. Donc tout devient contraint, tout devient plus compliqué, il faut trouver des infrastructures, il faut trouver des professionnels de santé, enfin, tout ça doit se mettre en place. Et du coup, les pensées négatives, bien évidemment, peuvent apparaître, sans parler du fait que souvent, un des deux parents s'arrête aussi
de travailler. Doit arrêter de bosser.
Et,
et donc est toute la journée à la maison, dans ses difficultés.
Exactement.
Et pour le couple aussi, c'est
très compliqué. Et n'avait pas forcément prévu de s'arrêter de travailler.
Alors justement, Pauline, elle nous dit ça, lorsque notre enfant est porteur de handicap, un des parents doit-il forcément mettre sa carrière entre parenthèses pour gérer le suivi? Et comment surmonter ça sans en vouloir à l'enfant?
Alors, j'aimerais lui répondre que non, il n'y a pas de nécessité de s'arrêter de travailler. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est bien évidemment beaucoup plus complexe. J'espère qu'on arrivera un jour au modèle des pays nordiques où on a le choix de s'arrêter de travailler une fois le père, une fois la mère, de s'arranger aussi comme on veut. En France, c'est un peu plus complexe que ça.
Pauline, elle a réussi à continuer à travailler.
Oui, parce que avec des aménagements spécifiques, on peut y arriver. Ça dépend aussi du type de handicap.
Handicap, bien sûr.
Il y a des handicaps visibles, il y a aussi des handicaps invisibles, il y a ceux qui arrivent à la naissance, il y a les handicaps qui arrivent avec le développement. Donc ça dépend de plein de choses. Je crois qu'à un moment, c'est quand même un peu compliqué de tout gérer.
Oui.
Et c'est aussi s'autoriser et se dire « Ok, je ne peux pas tout gérer, je vais peut-être mettre ma carrière entre parenthèses pendant un petit temps pour m'occuper pleinement de mon enfant et après je vais reprendre. » Mais c'est aussi s'autoriser à reprendre. S'autoriser à s'arrêter, mais aussi s'autoriser à reprendre.
Et oui. Il ne faut pas en vouloir à son enfant, mais il ne faut pas en vouloir aussi au conjoint.
Qui, lui, continue de travailler. Voilà. Exactement.
C'est complexe.
Lilou vous demande comment préparer un enfant porteur de handicap aux remarques des autres.
Alors ça, c'est très difficile. Le regard des autres, je crois que c'est une des choses les plus difficiles dans le handicap. Sur une autre émission, on parlait de la fratrie et du regard des autres. Quand on a un frère ou une sœur handicapée, là, c'est la même chose. C'est compliqué de s'y préparer. Je crois qu'il faut expliquer peut-être que le handicap, c'est l'inconnu. Pour la plupart des gens, il y a une forme de curiosité aussi. Et c'est surtout qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Il y a beaucoup de maladresse autour du handicap.
Oui, bien sûr. Nadia vous demande quelles sont les conséquences sur le lien parent-enfant. Il y a peut-être des conséquences aussi qui sont ultra positives.
Oui, alors exactement. Il y a des conséquences ultra positives, c'est bien de le souligner, parce qu'on parle souvent du négatif. Alors, je n'ai pas envie de généraliser pour cette question, parce que voilà, le lien parent-enfant, il est très spécifique aux parents, aux familles. Enfin, voilà, tout le monde essaye de le mettre en place comme il peut. En revanche, je crois que c'est des familles où, malgré la lourdeur et le poids du handicap, il y a aussi une certaine joie de vivre. On apprend aussi à vivre avec ce handicap, à avoir un regard différent sur la vie. Apprendre aussi les choses différemment, c'est-à-dire les petits plaisirs de la vie ont une saveur toute différente. Ouais. Souvent, c'est des familles où il y a aussi des petits plaisirs simples, le plaisir d'être ensemble tout simplement, et ça je crois que c'est chouette.
Sylvie nous dit « J'ai appris le handicap de ma fille in utero, elle a 6 mois maintenant, j'ai du mal à créer le lien avec elle, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire ?»
Ce que je peux lui conseiller de faire, c'est peut-être d'aller vers des centres. De plus en plus, ça s'ouvre, des cafés, parents-enfants, enfin, de rencontrer d'autres mamans aussi, de ne pas rester aussi dans ce microcosme, finalement, mère-enfant ou autour du handicap. C'est d'arriver à un peu s'extraire, prendre du temps pour elle aussi, c'est important. On sait à quel point c'est difficile en postpartum de prendre du temps pour soi, alors quand on a un enfant handicapé, c'est encore plus compliqué.
Ouais.
Mais de c'est aller, voilà... Prendre du plaisir, finalement, c'est de découvrir son enfant autrement et en prenant du plaisir avec lui, elle va petit à petit créer un lien au-delà du handicap.
Merci beaucoup Pauline Mainjolet, merci à Pauline. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Les amis, on se retrouve demain sur France 2, sur France.tv, en réseaux sociaux, en podcast, bref, partout. Tout le temps. Ciao tout le monde !